Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une affaire criminelle que sans doute tout le monde a oubliée. Et pourtant, elle se termine en 1948 par trois coups de lame sous la guillotine. Trois, à Tarbes. Je tire cette histoire d'un livre de Jean-François Fourcade, dit « Coup d'hache, crime en Bigorre et petit délit en Haute-Adour » aux éditions pyrénéennes. Voici l'histoire des derniers guillotinés des Hautes-Pyrénées. Attention, ça sent l'accent. Nicolas Loupien m'a aidé à l'écrire et Céline Lebras l'a réalisé.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Nous voici à Créchettes, dans les Hautes-Pyrénées, fin décembre 1944, aux alentours de midi. Il a neigé toute la journée. De la fumée s'échappe des cheminées. On est à deux jours de Noël et on devine à l'intérieur des maisons les femmes qui préparent les oies rôties. C'est un décor de calendrier de la poste. À la poste, justement, Félix Godemet, le receveur qui fait aussi facteur, a fini de classer le courrier et il est en train d'arrêter les comptes de fin d'année. Quand arrive un télégramme. Un télégramme envoyé de Lourdes et destiné à une habitante du village. Comme en général les télégrammes sont porteurs de mauvaises nouvelles, à Créchettes, ça n'est pas le facteur qui les distribue. C'est le maire. Et donc, Félix Godemet attrape le télégramme et se dirige vers le domicile du maire, Pierre Sost. Le maire habite une ferme d'une dizaine d'hectares près de la Nationale. Il cultive des pommiers. C'est un vieux garçon, Pierre Sost. Il vit là avec sa mère et un domestique. Félix, le postier, arrive devant la ferme. Il ouvre le grand portail. Il va vers la porte. Normalement, chez le maire, c'est toujours ouvert. Sauf les jours de marché, quand il s'absente. C'est un peu l'annexe de la mairie, si vous voulez. Les gens passent sans rendez-vous. Le chien n'aboie plus depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la grande porte d'entrée est fermée. Le facteur jette un œil par les vitres de la cuisine. Normalement, la veuve Sost, la mère, est au coin du feu en train de tricoter ou de coudre. Elle n'y est pas. Et le feu est éteint. Avec cette neige. Il a dû passer quelqu'un parce qu'il y a trois verres sur la table. Alors le facteur se hisse sur la pointe des pieds. Il colle son visage au carreau. Et là, il voit sur le sol de la grande pièce deux corps. Dans une mare de sang. Oh, il députe. C'est Madame Rosalie. Il la reconnaît tout de suite. Et l'autre, c'est le domestique, Joachim. Et le maire? Eh bien, le maire, on ne sait pas où il est. Quoi qu'il en soit, Félix est tout tourneboulé, et donc, il rentre à la poste en courant. Il y retrouve sa femme.
J'arrive de chez Sost. La porte était fermée. J'ai regardé par la fenêtre. On a tué la mère, la Rosalie, et Joachim aussi, ils sont par terre dans le sang. Et Pierre? Pierre, tu l'as vu? Non, je sais pas où il est. Il faut que t'appelles les gendarmes de l'Ourbarousse. Hein. Il faut les prévenir. Oh, boudiou, boudiou, quelle histoire. Allô? Le central? Dites-moi, est-ce que vous pourriez me passer la gendarmerie de l'Ourbarousse, s'il vous plaît? Oui, l'Ourbarousse. J'attends.
Il lui faut un bon quart d'heure pour joindre la gendarmerie. Les gendarmes arrivent à 5 heures de l'après-midi et ils retrouvent sur place le postier Félix et le premier adjoint. La porte d'entrée est toujours fermée à clé. Alors ils passent par la grange et trouvent une autre porte, qui elle est ouverte. Et ils arrivent dans la cuisine. Et là, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas deux, mais quatre corps. La mère, Rosalie. Le domestique, Joachim. Et le maire, Pierre Sost, il est mort lui aussi. Son corps est dans l'angle. Félix ne pouvait pas le voir. Et le quatrième, là. Eh bien, c'est l'ami du maire, c'est Jean Ribes. Il passe le voir tous les soirs pour tailler le bout de gras. et alentour dans la cuisine. Il y a du sang partout. On s'est battu dans cette cuisine. Les chaises sont renversées. Et dans un coin, les gendarmes découvrent une barre de bois recouverte de sang avec des cheveux collés dessus. Les gendarmes examinent ensuite un par un les quatre cadavres.
Alors tu notes, cadavre de Monsieur Pierre Sost, enfoncement total de la boîte crânienne. Ça doit être la barre de bois. On a aussi un coup de couteau au niveau du cœur. À mon avis, il est mort de suite, hein?
Le cadavre de la mère, Rosalie, présente un écrasement des parties saillantes du visage. Et là encore des blessures par arme blanche, au cœur et à l'aorte. Le couteau qui a servi à les tuer tous, les gendarmes le retrouvent planté dans le cœur du domestique. Et ils trouvent un deuxième couteau, planté dans le dos du quatrième cadavre, celui de l'ami du maire, Jean Rime. C'est une boucherie. Et le mobile de ces quatre meurtres paraît assez clair tout de suite. Le vol. La maison est sans dessus-dessous. Tous les meubles ont été fouillés, les tiroirs et les matelas sont retournés. Et les portefeuilles de Pierre Sost et de son ami Rib sont là sur le sol, vides. Le lendemain, le procureur Fabre ouvre une information pour assassinat. Et la police judiciaire met à la tête de l'enquête l'inspecteur principal Courtège, que l'on dit spécialiste des crimes en milieu rural. Que diable ! Un spécialiste des crimes chez les Pécores. Ça existe donc. L'inspecteur Courtège débarque à Créchettes le 29 décembre, soit 6 jours après le quadruple assassinat. Et il va droit à la ferme, avec la ferme intention, comme c'est l'usage, de poser des scellés sur les portes. Il doit vite y renoncer. Il y a 8 vaches dans l'étable. Alors il trouve un voisin pour s'en occuper et remballe ses scellés. Le début d'enquête confirme le mobile, l'argent. Parce que vu de Créchettes, vous devez savoir que les Sost, la famille du maire, ce sont des riches. Je vous ai dit qu'ils cultivaient des pommiers. Eh bien la pomme à cette époque, ça rapporte. Et l'inspecteur Courtège apprend vite que quelques jours avant d'être assassiné, le maire Pierre Sost est allé vendre sa récolte de pommes à un grossiste de Lannemezan.
Et combien a-t-il tiré de cette récolte de pommes? Oh! Pas mal d'argent, hein? Il est reparti avec 50 000. 50 000 francs? Eh oui!
Et à Créchettes, tout le monde croit savoir où les Sost planquent leur oseille.
Ils ont des tiroirs pleins de billets de banque, hein? Et des titres porteurs, et des bons du trésor. Vous avez une idée du montant? De leur fortune, hein? Bon, moi, je dirais 200 000, hein? 200 000 francs. Sans compter l'argent qu'ils ont à la poste.
Tout ça est peut-être fantasmatique. Mais les Sost étaient riches, ils avaient de l'argent à la maison, et ça se savait. Et l'ami du maire, Jean Rib, qui était là et qui est mort lui aussi, lui, il était maquignon. Et les langues de pute de Créchettes disent qu'il a toujours sur lui plusieurs milliers de francs. Et ça aussi, tout le monde le savait. Alors, qui a fait le coup? En traînant dans le village, l'inspecteur Courtège apprend que 3 bûcherons espagnols traînaient dans le coin il n'y a pas si longtemps. Des espingouins! Eh ben, ça doit être eux, les assassins. Ces espagnols seraient venus fin novembre.
Ils sont venus pour se faire embaucher comme bûcherons. Et moi, je les ai vus aller chez le maire. Ah si ! Ils y sont allés pour lui demander des cartes d'alimentation. À novembre !
Très intéressant. Et l'inspecteur Courtège et ses hommes retrouvent leurs traces dans un hôtel du coin, l'hôtel Terminus de Lourbarouze.
Bonjour madame, c'est la police. Dites-moi, en novembre, vous n'auriez pas hébergé 3 Espagnols? Ah, je crois bien que si. Attendez, bougez pas. Si, si, dans la nuit du 29 au 30 novembre. Et vous avez gardé leur fiche. Et bien sûr, c'est la loi. Et vous pouvez me les donner, mes fiches. Évidemment. Et voilà.
À partir de là, cortège a des noms. Prieto, Ramiro et Sanchez. Et il est encore conforté par le témoignage des employés de la gare de Montrégeau, qui raconte une scène qui remonte à la veille des meurtres.
Oh, mais trois Espagnols, hein? Ils étaient sous comme des cochons. Et dans le hall de la gare, on n'entendait que. Et dans le train, ils ont gueulé comme des ânes.
Ça se précise. Mais il faudrait des preuves. Alors avec sa liste de trois noms, Courtège se rend à Tarbes, la préfecture, et il va au service des étrangers. Pas de trace des trois Espingouins. Il fait le tour des garnis qui logent des Espagnols. C'est la guerre d'Espagne à l'époque. Il y a beaucoup d'Espagnols républicains qui se sont réfugiés dans le coin. Mais ça ne donne rien non plus. Et là, il a une excellente idée. Il va voir le commandant des guerrilleros espagnols, les Espagnols républicains qui mènent la résistance contre Franco depuis la France.
Il ne sait pas si ça peut vous aider, mais nous avons quatre guerrilleros qui ont déserté. Ah, c'est intéressant, ça. Et quand? C'était les 20 novembre.
Et vous en voulez une autre? Pour vous convaincre qu'on est sur la bonne piste? La tenancière de l'hôtel Terminus, où ces trois Espagnols ont logé avant et après le meurtre, raconte une drôle d'histoire.
Eh bien, juste avant Noël, un jour, ils sont arrivés avec une oie. Une oie grasse. Ils m'ont demandé de la cuisiner.
Cette oie? C'est celle que la pauvre Rosalie Sost a engraissée pendant des mois pour la manger à Noël. Plus de doute, ces Espagnols sont les assassins. Mais où sont-ils? La tenancière de l'hôtel Terminus donne aussi à l'inspecteur Courtège une information capitale.
Ils ont parlé. Ça pour parler, ils ont parlé, ils ont parlé beaucoup. Et il y en a un qui a dit qu'il voulait aller à Tours. Parce que là-bas, il avait une maîtresse. À Tours, vous voulez dire en Touraine? En Touraine, je sais pas, mais à Tours. Ils ont dit à Tours.
À Tours? L'inspecteur Courtège s'achète un billet de train. Et le 18 janvier, il débarque à Tours, où il mobilise ses collègues de la police, qui secoue la communauté espagnole.
« Ça y est, inspecteur, j'ai un tuyau. Ils sont descendus à l'hôtel de Bourgueil, chambre numéro 9. »
Ni une ni deux, Courtège et ses hommes foncent à l'hôtel. Ils montent tout droit à la chambre numéro 9. Et là, ils tombent sur les trois Espagnols en slibard et en tricot de peau. Au début, Prieto, Ramiro et Sanchez font les andouilles.
Et nous n'y sommes pour rien, hein? Pour rien du tout.
Et puis les policiers qui les accompagnent les fouillent. Ils commencent par Prieto. Et ils trouvent sur lui 13 billets de 1000 francs. 13 000 francs. Plus des pièces en argent. Et sur Ramiro, ils trouvent 2000 francs. Et encore des pièces en argent. Le dernier n'a rien sur lui. Son portefeuille est vide.
Alors, messieurs, d'où est-ce que vous le sortez, cet argent?
Et tout doucettement, les trois passent aux aveux. L'argent vient du quadruple assassinat de Créchette. Et voilà donc comment ça s'est passé. Dans cette histoire, au début, ils ne sont pas trois, mais quatre. José Ramiro, José Sanchez, Julián Prieto et Jesús Bermejo. Ils ont quitté tous les quatre l'Espagne en 1938 parce qu'ils étaient contre le fascisme. Ils se sont réfugiés à l'ombre de la Sainte Vierge, à Lourdes. Et là, ils ont intégré une unité de guerrilleros. Ils désertent en 1944, tous les quatre. Ils louent une chambre à Tarbes. Et assez vite, il leur faut se rendre à l'évidence. Ils n'ont pas un radis. Et c'est là qu'ils apprennent que dans la vallée de la Barousse, on cherche des bûcherons. Sanchez, Prieto et Bermero, y vont à trois. Et ils sont embauchés. Fantastico! Et là, ils se disent, comme on est là, si on allait voir le maire pour tenter de lui arracher deux cartes d'alimentation. C'est la guerre. C'est comme ça que ça marche. La nourriture est rationnée. Quand ils arrivent à la ferme des Sostes, ils tombent sur la mère.
« Où est mon fils ? Il n'est pas là, mon fils. Il est encore au chat à cette heure. Mais entrez, je vous prie. Vous allez attendre au chaud. »
Ils entrent dans la grande pièce. « Pas mal. Ça sent l'opulence ici. Et si la vieille est sourde, elle n'est pas muette. »«
Oh, il a beaucoup de travail, mon fils Pierre. En ce moment, vous... Et on est en pleine récolte. Ça va être une bonne année, hein? On est content. Remarquez, les années précédentes, c'était pas mal non plus, hein? On n'a pas à se plaindre. On a de la galette. Et on la met pas à la banque, hein? Les banquiers sont des voleurs. »
Quand ils repartent de chez le maire, ils n'ont plus qu'une seule idée en tête. Ils n'iront pas se tuer la santé en faisant les bûcherons. Ils vont prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire chez le maire. En rentrant à leur hôtel à Tarbes, ils racontent tout à leur ami Ramiro. Le 22 décembre, ils se réunissent tous les quatre pour préparer leur coup.
Si on fait ça, il faut les tous et tous. Sinon, il faut nous dénoncer.
Ça tombe bien. Sanchez a un revolver. Au dernier moment, Jesús Bermero renonce, mais les trois autres se mettent d'accord pour lui garder une part du butin. Il a quand même participé au repérage chez le maire. Et les voilà donc qui montent à trois, dans le train de 16 heures, en direction de Montrejo. À Montrejo, ils doivent attendre la correspondance pour l'Ourbarous. Alors ils achètent un sandwich, et surtout du vin blanc. Quand ils montent dans le train suivant, ils sont sous comme des gorées. Et c'est dans le train qu'il décide de renoncer au revolver.
Ça va faire un bruit, non? Faut qu'on trouve autre chose.
Arrivé à l'Ourbarous, ils prennent à pied la direction de Créchette. Il y en a pour 5 kilomètres. Et dans une scierie sur le bord de la route, ils volent une barre de bois. Ça sera moins bruyant que le revolver. Quand ils arrivent à la ferme des Sostes, ils voient de loin un visiteur débarquer. C'est Jean Ribes. Ils ont juste le temps de se planquer à l'angle de la maison voisine. Ils le laissent entrer. Et maintenant, ils peuvent y aller. Ils pénètrent dans la cour. Et là, ils trouvent Pierre Sostes et son ami Jean.
Personne ne les bouche.
Le revolver suffit à les neutraliser. Ils les font rentrer. Ramiro regroupe les quatre occupants dans un coin de la cuisine. Et les deux autres entament la fouille des chambres. C'est pour ça qu'ils ne les tuent pas tout de suite. Au cas où il faudrait les secouer un peu pour avoir les planques. Ils fouillent les armoires, ils retournent les tiroirs, ils trouvent quelques pièces d'argent et des louis d'or. Mais pas de bifton. Alors ils redescendent dans la cuisine.
L'argent ! Il est où l'argent ?
Pierre Sostes leur montre alors le tiroir de la cuisine, dans lequel ils trouvent 24 000 francs. Et là, bim, Sanchez assomme la mère. Et ensuite, il force Pierre Sostes à monter à l'étage et à lui montrer les autres cachettes. Et ensuite, ils descendent et ils les tuent tous les quatre. Avant de partir, ils volent une miche de pain et une bouteille d'eau de vie et la fameuse oie grasse toute plumée que la vieille avait préparée pour Noël. Il ferme la porte de la cuisine, il jette la clé dans un ruisseau. Il est 22 heures, il fait froid, il neige, il n'y a plus de train pour Tarbes. Alors il décide de passer la nuit dans une meule de paille au bord de la route. Et pour se réchauffer, ils ont la bouteille d'eau de vie. Voilà le crime tel qu'ils viennent de l'avouer. Au total, ils ont volé 120 000 francs. Et maintenant, soyons lucides. Ces trois Espagnols ont toutes les chances de finir sous la guillotine. Avant de les juger, il faut tout de même savoir qui a fait quoi exactement. Au total, dans cette affaire, ils ne sont pas trois ni quatre, mais cinq Espagnols impliqués. Le cinquième s'appelle Avila, les autres lui ont donné une part du butin parce qu'il l'aimait bien et qu'il n'avait pas le sou. Et cet Avila s'empresse d'expliquer qu'il ne savait pas d'où venait l'argent. Sur les quatre autres, vous savez que Bermero, à la dernière minute, a renoncé. Il n'a pas participé au meurtre. Mais il a tout de même empoché 30 000 francs, c'est du recel. Et puis restent les trois autres, Prieto, Ramiro et Sanchez. Eux, ils étaient à la ferme. Et eux, ils s'accusent mutuellement. Prieto et Ramiro disent que c'est Sanchez qui a tué. Et José Sanchez...
Ah ben c'est Prieto hein, qui a tué.
Et pour tenter de sauver leur tête. Maintenant, contrairement à leurs aveux en garde à vue, ils disent tous que rien n'était prémédité, que ça s'est fait dans l'affolement. Le juge les interroge à plusieurs reprises. Il les confronte. Et à la fin, il décide de leur envoyer tous les cinq devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées. Sanchez, Ramiro et Prieto pour assassinat et vol aggravé, et Bermero et Avila pour recel. On ne voit pas comment les trois premiers pourront échapper à la peine de mort. Leur procès s'ouvre à Tarbes le 24 mars 1946 à 2h de l'après-midi. Cinq avocats ont été désignés pour assurer leur défense. Les portes du palais ne sont pas encore ouvertes, il y a un monde fou devant la porte. Et quand on ouvre les portes, les gens se ruent à l'intérieur pour accéder à la tribune. Dans le prétoire, les pièces à conviction, comme c'est l'usage, sont posées sur une table. La barre de bois, une bûche tachée de sang, le revolver et les deux couteaux.
« Faites entrer les accusés, je vous prie. »
Ils entrent dans la salle d'audience en baissant les yeux. Ils ne regardent ni le public, ni les pièces à conviction. Le greffier lit l'acte d'accusation. Et au fur et à mesure qu'il donne des détails, les gens dans la salle font « Oh ! Ah !» Honnêtement, l'interrogatoire des cinq n'apporte pas grand-chose. Maintenant qu'ils ont compris qu'ils risquaient leur tête, ils ne défendent plus qu'une seule idée.
On est venus pour les voler, mais on ne passait pas les tuer. Mais alors, si vous n'aviez pas l'intention de les tuer, pourquoi est-ce que vous prenez un revolver et que vous ramassez en passant une barre de bois à la scierie? Mais c'était pour nous défendre.
Ils sont très moyennement convaincants. Le docteur Auberti, psychiatre, vient à la barre.
Nous avons là des accusés qui sont tous sains de corps et d'esprit et qui sont d'une intelligence plutôt supérieure à la moyenne. Hein. Et nous considérons que leur responsabilité doit être regardée comme entière. Elle est entière.
On fait venir l'inspecteur Courtège.
J'ai été écœuré par le cynisme de leurs aveux. Écœuré.
Mais ce que tout le monde attend, c'est le réquisitoire. Le réquisitoire de l'avocat général, le procureur Fabre. Va-t-il ou non demander la peine de mort?
Il s'agit bien, mesdames et messieurs, d'un crime prémédité. Ils l'ont dit au cours de leurs aveux, ils étaient venus pour les tuer. Alors ensuite, ils sont revenus là-dessus, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'ils disent spontanément le jour où on les arrête. N'est-ce pas? C'est un crime d'une sauvagerie et d'une cruauté que rien ne peut justifier. Le psychiatre nous a dit qu'ils étaient pleinement responsables. Et moi, je ne trouve à la lecture du dossier aucune circonstance atténuante. Je requiers donc contre Sanchez, Ramiro et Prieto la peine de mort. Et contre Bermejo, qui ne pouvait pas ignorer que l'argent qu'il a reçu venait du crime, une peine de 20 ans de travaux forcés. Quant à Avila, vous le condamnerez à une peine de principe.
Les avocats de la défense demandent une suspension de séance pour adapter leur plaidoirie. Les avocats, en vérité, n'ont qu'une alternative pour tenter d'éviter à leur client la mort. Plaider l'absence de préméditation.
Il n'avait pas prévu de tuer. Il tue dans l'affolement. Et puis ces hommes-là ne sont pas n'importe quels hommes. Ces hommes-là, ils se sont battus pour leur pays. Ils se sont battus pour la liberté. Et pendant la guerre, ils ont rejoint la résistance française. Ils ont été braves. Ils ont été braves. Et vous devrez juger leur cas avec bienveillance.
Le 26 septembre 1946, aux alentours de 7 heures du soir, les jurés de Tarbes rendent leur verdict. C'est assez laborieux, ils ont dû répondre à 67 questions. Mais la seule qui compte, c'est celle-là.
À la question, les accusés Sanchez, Ramiro et Prieto bénéficient-ils de circonstances atténuantes ? Le jury a répondu non.
À partir de là, tout le monde a compris.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, condamne José Sanchez, José Ramiro et Julián Prieto à la peine de mort. Elle condamne Jésus Bermejo à 20 années de travaux forcés et Pedro Avila à 18 mois d'emprisonnement. Garde, emmenez les condamnés. L'audience est levée.
Sanchez, Ramiro et Prieto se pourvoient en cassation. Rejetés. Ils attendent maintenant le résultat du recours en grâce que leurs avocats ont déposé auprès du président de la République, Vincent Auriol. Le 30 janvier 1948, la secrétaire de l'avocat de Prieto reçoit un appel du parquet général.
Maître ?
Oui, Annie ? J'avais demandé qu'on ne me dérange pas.
C'est le parquet général, maître. Ils disent que c'est urgent.
Entendu, passez-les-moi. Allô ?
Bonsoir, maître. C'est pour demain, à 7 heures.
Les recours en grâce ont été rejetés.
Oui, maître. Nous venons d'être avisés par la présidence de la République. Nous souhaitons procéder avant que ça ne se sache à la prison. Comme vous le savez, ça met toujours les détenus dans un état de nervosité terrible. Donc soyez rue Eugène Thénault à 7 heures du matin demain.
Dans l'immédiat, seul Sanchez n'est pas sur la liste, car il doit encore comparaître devant la cour d'assises de Tours pour un autre meurtre. Au même moment, le train de Paris arrive en gare de Tarbes, avec à son bord le bourreau, M. Desfourneaux, ses assistants et ce qu'on appelle à l'époque les bois de justice, autrement dit la guillotine, démontée. Le lendemain matin, quand les avocats arrivent à la prison de Tarbes, la guillotine est déjà dressée dans la cour, avec un seau qui recueillera le sang et une grande corbeille en osier pour y mettre les corps. On a tendu une grande toile pour que depuis les fenêtres des cellules, les détenus ne puissent pas assister à l'exécution.
Bonjour messieurs, nous n'attendions plus que vous.
Un petit groupe se constitue. L'aumônier, le directeur de la prison, le gardien-chef, un représentant du parquet, un magistrat du siège, les avocats, et bien sûr le bourreau Desfourneaux et ses assistants. Le petit groupe se dirigent vers les cellules des condamnés à mort. Ils ouvrent d'abord la porte de Prieto. Il dormait.
Alors ? Ça y est, je suis gracié ?
Comme personne ne répond, il comprend que non.
Allez, Prieto, ne fais pas d'histoire, hein ? Habille-toi, tout va bien se passer.
Ils vont ensuite chercher Ramiro. Et tous les deux s'entretiennent quelques minutes avec l'aumônier. Il semble qu'ils communient. Ensuite, l'exécuteur coupe le col de leur chemise et les cheveux qui leur couvrent la nuque. Ils refusent la cigarette, mais ils boivent le verre d'alcool, cul sec. Et après, ça va très vite.
C'est terminé. Merci, messieurs.
Le troisième, José Sanchez, est exécuté 4 mois plus tard. Et c'est la dernière fois qu'une tête tombe à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. La ferme des Sostes, à Créchetz, a été rachetée depuis par un couple d'Anglais. Ils y font chambre d'hôte, si le cœur vous en dit. J'ai tiré cette histoire du livre de Jean-François Fourcade, dit Coudache, Crime en Bigorre et Petit délit en Haute-Adour, aux éditions Pyrénéennes.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.